Bonjour à tous. Aujourd'hui, Service Public organise une tea party, mais attention, rien de politique là-dedans, simplement l'occasion de mieux connaître cet exotisme devenu extrêmement familier. Voici le thé sans nuages, de lait sans nuages, tout court. Il paraît que l'on a arrêté d'Éric, et si la plupart des télés du monde ont décidé d'arrêter les rediffusions de ce feuilleton, c'est parce que le plus célèbre commissaire allemand n'était pas un criminel, mais pire que cela, un ancien Waffen-SS. Et cette décision du petit écran se télescope avec l'actualité du grand écran, la sortie d'un film consacré à la philosophe Hannah Arendt. Et ce film est l'occasion d'user jusqu'à saturation de l'expression de banalité du mal. En effet, Hannah Arendt a forgé cette expression au sujet d'Adolf Eichmann, haut fonctionnaire nazi, l'un des organisateurs de la solution finale. Pour Hannah Arendt, Eichmann n'était pas un fou, mais au contraire, un bureaucrate rationnel et méticuleux. Mais depuis 50 ans, cette expression est mal comprise. Aujourd'hui, la notion de banalité du mal est utilisée comme s'il s'agissait de dire qu'en chacun de nous sommeille un criminel nazi. Du coup, cette notion nous trompe. Elle tend à déresponsabiliser les hommes, à transformer les monstres en individus comme les autres. Et finalement, la banalité du mal ne nous apprend rien sur le mal, sur cette énigme qui conduit un individu en Allemagne, hier, en Syrie aujourd'hui ou ailleurs, à tuer des innocents au nom d'une idéologie pour un homme ou un projet. Voilà pourquoi le mal est rien moins que banal. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'on a jugé bon d'arrêter d'Éric. Parce que nous savons tous confusément qu'il y a quelque chose de si mystérieux dans le mal qu'il semble désormais impossible de regarder d'Éric comme si ce personnage était joué par un acteur banal. C'est la preuve qu'il faut se méfier de cette notion. À force d'utiliser l'expression de banalité du mal, c'est le mal que l'on risque de banaliser. Et nous, Français, avons de vraies bonnes raisons de nous mettre au thé, car selon de vieux lettrés chinois, le vin est la boisson la plus proche du thé, n'en déplaise aux simples buveurs d'eau.
Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Ils font un thé divin.
Ah oui?
C'est lent.
C'est lent?
C'est leur spécialité.
Ah oui, non, si c'est lent, je vais prendre... la grenadine.
Et comme il y a beaucoup de Chinois, je crois, le thé est évidemment la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Et cependant, les Français en consomment peu, 230 grammes par habitant et par an, 10 fois moins que les Anglais.
Moi, après chaque cascade, pour reprendre des forces et me décontracter, je bois Clipton Yellow, un thé pour nous, les cascadeurs.
Encore un peu de thé, Pierre?
Oui, merci.
Et c'est notre oiseau voyageur Laure Vatrin qui conclura cette émission comme chaque vendredi. Elle s'intéressera précisément à la cérémonie du thé chez la Queen Mère et ses sujets.
Je voulais juste vous dire que c'est à votre courage que vous devez votre victoire. Ça n'était pas de la vraie potion magique tout à l'heure.
Je l'ai bien compris. Néanmoins, j'ai goûté moi-même ce breuvage et je l'ai trouvé excellent. Quelle plante utilisez-vous?
Majesté. C'est une plante très répandue dans mon pays. On appelle ça le thé.
Eh bien, je déclare à partir d'aujourd'hui que le thé sera notre boisson nationale.
Service public. Guillaume Erner.
Allez, tais-toi, la cérémonie du thé aujourd'hui en compagnie de François Delaroyère. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des produits gastronomiques et de leur histoire. En face de vous se trouve Fabien Maiolino. Bonjour Fabien Maiolino.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Maison des 3T, une institution très étrange à Paris où l'on trouve Maître Tseng, votre associé, l'une des meilleures expertes, paraît-il, du monde sur le thé. Et puis Gilles Delannoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-traducteur et préfacier d'un livre intitulé « Dialogue du thé et du vin » de Wang Fu. Un livre vénérable puisqu'il a quasiment 9 siècles, si je ne m'abuse. Et il est publié aux éditions Berg International. Et vous êtes professeur à Sciences Po. Et ce livre, Gilles Delannoy, montre qu'il y a une parenté entre le thé et le vin. Comment peut-on rapprocher ces deux produits, ces deux boissons?
Eh bien, l'existence de ce livre de la dynastie Tang, dont d'ailleurs le manuscrit le mieux conservé se trouve à la Bibliothèque nationale à Paris. Bon, ce serait une longue histoire à raconter.
La dynastie Tang, c'est
600-900 de notre ère, à peu près. Donc, a été rapporté de la route de la soie par Paul Pelliot. Et on s'aperçoit que même à cette époque, il y a plus de 1000 ans, l'auteur Wang Fu comparait le thé et le vin, en citant le vin de raisin, bien que le vin dont il parle soit principalement un vin de riz. Et les deux protagonistes du dialogue avaient pour fonction, dans cette petite pièce de théâtre, de se vanter. Et puis, je ne dévoilerai pas la fin du livre, mais un troisième personnage apparaît et les mettra tous les deux d'accord, parce qu'en voulant faire leur propre promotion, ces deux boissons étaient devenues un peu prétentieux et arrogants. C'est une pièce qui pourrait être jouée au théâtre, qui est assez courte. Hein, c'est plus comme une pièce en un acte.
Mais alors, il y a des vérités éternelles. Par exemple, le thé dit que tout le monde sait que le vin donne la jaunisse, et personne ne dit que le thé rend fou. Effectivement, il y a néanmoins des points communs entre le thé et le vin, et notamment le fait que ces deux produits donnent lieu à des experts, à un monde de savoir, tout simplement parce que ce sont deux produits extrêmement complexes et à l'origine, pour ainsi dire, de deux civilisations, Gilles Delannoy.
Oui, on peut dire qu'il y a eu une civilisation du thé en Extrême-Orient, avec un raffinement à la fois dans la dégustation, les ustensiles, mais surtout quand même la connaissance du produit. Et d'ailleurs, une évolution de siècle en siècle ou de dynastie en dynastie, la façon même de préparer le thé. Et de même, on peut faire la comparaison sans problème avec l'Occident, depuis le vin très, très épais que buvaient les Grecs et les Romains et qu'on diluait dans un grand vase, jusqu'à nos techniques actuelles de production qui, ne serait-ce qu'en un siècle, ont beaucoup évolué.
Alors, on va essayer justement de décrypter en quelque sorte les cultures qui ont été engendrées par le thé. François de la Royère, en tout cas, le thé est l'un des plus anciens produits au monde, 5 millénaires d'histoire. Et l'on voit aujourd'hui qu'il y a finalement des pays à thé, comme l'Angleterre, l'Irlande évidemment, et des pays à café encore, comme la France. Comment explique-t-on cette distinction ?
Souvent par des habitudes et puis par des conditions économiques. Le thé est arrivé vraiment en Europe au XVIIe siècle. Il aurait pu arriver un petit peu plus tôt parce que les navigateurs ont découvert Calcutta vers le XVe siècle. Mais il a mis, disons, deux siècles à commencer à rentrer un petit peu dans les habitudes. Il est rentré effectivement en compétition avec deux autres boissons qui étaient arrivées un tout petit peu avant, qui étaient le chocolat et le café, qui arrivaient l'un évidemment des Amériques et l'autre d'un peu plus près, de tout le monde arabe. Et le thé, s'il a vraiment remporté la mise en Angleterre, c'est pour différentes raisons. La première, c'est que d'abord les compagnies qui avaient le monopole du thé, notamment la Compagnie des Indes orientales, avait une puissance de feu très importante et qui a pu créer des lobbies. Il y avait beaucoup de gens qui avaient investi de l'argent là-dedans. L'Angleterre dominait les mers, et ce qui n'était pas le cas d'autres pays. Et donc l'arrivée du thé était extrêmement importante et il y avait une pression économique de ce côté-là. Il y avait d'autres raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a eu des cafés à Londres avant d'avoir des salons de thé. Ces cafés étaient réservés était totalement masculin, réservé aux hommes, alors que les salons de thé étaient ouverts aux femmes, de sorte que les femmes ont emmené dans les foyers anglais cette habitude du thé, pendant que l'aristocratie, de son côté, remplaçait au petit déjeuner la bière par du thé, qui n'était pas forcément le même qui était utilisé par la suite dans les classes populaires, où véritablement il y a eu une campagne de promotion du thé extrêmement importante au XIXe siècle, avec la naissance de l'industrie, où l'alcool commençait à devenir un problème pour les rendements industriels. Voilà. Et donc, il a été installé à force campagne, le thé, dans les habitudes anglaises. C'était un thé, il faut bien le préciser, très différent des thés que de ce qu'utilisaient les Chinois, des standards chinois qui étaient beaucoup plus fins. Ces gens qui habitaient l'Angleterre à cette époque-là, comme nous, avait une des boissons qui était beaucoup plus lourde que le thé. Donc, il fallait aussi trouver dans ce goût quelque chose de plus approchant. Et puis, ce qui a été important, c'est de remplacer l'alcool par un breuvage qui était mélangé finalement à du sucre et à du lait, de sorte qu'il y avait le côté excitant du thé associé à l'aspect énergétisant et nourrissant du lait et du sucre. Donc finalement, le thé a atterri en Angleterre dans différentes couches de la société et a été très bien su.
Et ça, donc, c'est la culture anglaise du thé. La culture française du thé, elle était très, très faible, Fabien Maiolino. On dit que depuis les années 90, les Français se mettent progressivement au bon thé. Est-ce que vous avez vu un changement, vous qui êtes donc le directeur de la Maison des Trois Thés à Paris ?
Alors, autant, on va dire, depuis les années 90, on a une certaine mode du produit, et je pense que l'arrivée de Maître Otsing en Europe n'y est pas complètement étrangère, avec une diversité extraordinaire qui ne nous était pas connue en Europe.
Voilà. Par exemple ?
Alors, par exemple, dans les catégories de thé, on va dire des phénomènes qui n'étaient pas connus, par exemple les thés qui vieillissent en cave, comme les vins, qui se bonifient avec le temps.
Et ça, c'est quelque chose, évidemment, de bien connu et de millénaire en Chine.
Alors, oui et non, pas de la façon dont l'a abordé Maître Otsing. Il y a eu une rencontre qui a été extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. C'est entre l'univers du thé et l'univers du vin. Tout à l'heure, Gilles Delannoy nous disait qu'effectivement, le thé et le vin, déjà, il y a 900 ans, se côtoyaient déjà. C'est à la fois vrai et pas vrai. Ils avaient tous les deux une place culturelle très différente et étaient plus ennemis qu'amis. Et en fait, ils se sont réconciliés avec l'avenue du Roi de Tseng en Europe. Et pourquoi ? Parce qu'elle a rencontré notre monde du vin. Et d'ailleurs, Gilles Delannoy était parmi les premiers participants à ces rencontres, puisque c'est un grand amateur de vin.
Et puis, il y a aussi le thé de grande consommation. Et justement, nous sommes au téléphone avec Colette Ross. Bonjour, Colette Ross.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée en consommation et vous animez le blog Les Dessous de l'Assiette sur le site Rue 89. Et pour les Français, le thé, c'est bien souvent un sachet jaune qui s'appelle Lipton Yellow. Yellow, je crois que ça veut dire jaune, justement, en anglais.
Sous-marin.
Qu'est-ce que ce sous-marin, dit Gilles Delannoy. Qu'est-ce que vous pensez du Lipton Yellow, Colette Ross?
Alors, le Lipton Yellow, je vais laisser aux spécialistes qui sont avec vous le soin d'en parler d'un point de vue organoleptique, mais d'un point de vue de sa qualité, c'est un thé qui est extrêmement répandu. Ce sont des brisures réduites quasiment à de la poussière dans un sachet. C'est du thé noir. C'est le thé le plus consommé dans le monde. Et c'est à peu près au grand thé ce qu'est de la soupe en sachet instantané peut être à un bon potage maison fait par votre grand-mère avec amour, avec des légumes du potager. Quoi. C'est à peu près ça, hein, la différence entre les deux univers. Alors, pour les Français, c'est vrai que quand on parle de thé aux Français, et il y a évidemment les connaisseurs, mais pour la grande majorité des Français, c'est cette espèce de boisson chaude un peu astringente, amère, qui se colore très très vite, qu'on boit dans un café quand on a déjà pris trop de café ou quand on n'en a pas envie, et qui n'est pas associé à quelque chose de tellement plus intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est que le thé Lipton Yellow, c'est le thé le plus vendu au monde. C'est un thé qui appartient à une multinationale de l'agroalimentaire qui s'appelle Unilever, qui possède aussi d'ailleurs des marques de potage en sachet ou en briquette. Donc l'analogie, elle est marrante pour cette raison-là aussi. Et qui est un thé qui, paradoxalement, est peut-être de meilleure qualité, en tout cas pour la santé, en Europe qu'en Chine. Il y a eu une enquête qui a été rendue publique l'année dernière, réalisée par Greenpeace, qui montrait que dans les thés en sachet Lipton vendus en Chine, il y avait plusieurs dizaines de pesticides.
Fabien Maiolino hoche de la tête. Il y a effectivement un problème de pesticides, de métaux lourds dans le thé.
Dans les thés chinois, bien sûr, bien sûr. Tous les thés qui sont bu en Chine, pour la plupart, à 99%, ne passeraient pas les normes européennes.
Colette Ross, je l'ai dit en introduction de cette émission, les Français consomment 230 grammes de thé par an, c'est très peu par rapport aux Anglais, aux Irlandais. Ça veut dire que le marché du thé a une forte marge de progression et c'est la raison pour laquelle les industriels et les grosses entreprises de l'agroalimentaire, évidemment, essayent de s'en saisir.
Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'on a parlé à l'instant du Lipton. Lipton, c'est un nom propre au départ, c'est un anglais. Il y a un autre nom qui est un peu connu en France, moins connu que Lipton, c'est Twining. C'est
pareil. Avec le Earl Grey, par exemple.
Exactement. Exactement. Tout ça, c'est un univers anglais. Les Français, le thé, c'est pas grand-chose pour eux. C'est une consommation qui est assez assez faible et qui est souvent associée aussi à des innovations qui, pour les amateurs de thé, n'en sont pas, qui sont l'ajout d'arômes très puissants, que ce soit des arômes de fruits rouges, que ce soit des arômes de caramel, qui parfois rentrent dans la composition du thé à hauteur de 5, près 8, presque 10% du poids total, ce qui est énorme hein, pour un simple arôme, quelque chose qui est censé apporter du parfum. Et donc les industriels, effectivement, essaient de mettre les Français au thé par le biais de ce type d'innovation. Il y a un autre type d'innovation, c'est la forme du sachet. On a vu apparaître il y a quelques années la pyramide qui est censée permettre aux feuilles, enfin en réalité à la poussière de thé, aux brisures de feuilles, d'infuser de façon plus efficace et de parfumer le thé sans que celle-ci ne devienne trop amère.
Effectivement, il y a eu cette innovation, Colette Ross. Il y a une dernière innovation, mais qui n'a pas l'air de prospérer. Il faut dire qu'on a des difficultés à comprendre son intérêt. C'est l'équivalent de la machine Nespresso à capsule pour le thé.
Ah oui, oui.
Alors il fallait y penser.
Alors oui, ben ça j'adore cette idée-là parce que c'est Nestlé qui a lancé ça. En fait, Nestlé avait eu l'idée de génie de reproduire le geste du petit café qu'on se fait servir au comptoir du café avec les machines Nespresso. Et ça, évidemment, ça plaît beaucoup aux consommateurs de café parce qu'ils vont au café pour boire du café. Sauf que personne ne va au café pour boire du thé. C'est-à-dire que le choix de boire du thé au café, c'est vraiment le non-choix, c'est le choix par défaut. Alors, devant le succès de Nespresso, le succès mondial de Nespresso, et en particulier en France, ils se sont dit qu'ils allaient lancer le même principe pour le thé, sauf que le thé, c'est un geste d'artisan. C'est ce que vos invités vous expliqueront 10 fois mieux que moi. C'est un geste d'artisan, on fait ça à la main, c'est des feuilles qu'il faut mettre dans un filtre, il faut réchauffer sa tasse, qui donne une qualité particulière de porcelaine ou de terre, et tout ça avec une durée d'infusion très précise, une forme de tasse, de théière, etc., très particulière, et on est très très loin de l'univers de la machine. Donc à mon avis, le spécial thé ne prendra jamais pour cette raison-là, parce que c'est vraiment antinomique de tout l'univers du thé.
Merci beaucoup Colette Ross pour cet éclairage. Gilles Delannoy, évidemment, pour vous, le Lipton Earl Grey, c'est une monstruosité.
Oh, ça m'arrive d'en prendre, mais plutôt quand il n'y a pas d'autre choix. Mais je voulais dire, sur l'Angleterre, il y a toutes les raisons qui ont été dites et bonnes, mais il y a une dernière raison à ajouter, c'est que l'Angleterre ne produit pas de vin. Donc à l'époque, elle était une culture de la bière et du thé. Et le vin était vraiment dégusté par quelques élites qui voyageaient en Europe. La France était une situation très différente, elle est productrice de vin, première du monde, et première consommatrice. Et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que la globalisation et les échanges des produits ont permis de voir que l'équivalent de ce qu'il y avait en France et peut-être dans les pays du sud méditerranéen, de la dégustation du vin, aussi bien comme produit ordinaire, c'est-à-dire qu'on boit à tous les repas, que dans les grandes occasions, existait dans une culture du thé qui était aussi variée en tant que produit que l'était le vin en Europe. Donc c'est ça, au fond, la surprise agréable, la bonne nouvelle.
Il y a effectivement cette bonne nouvelle du thé anglais. Et puis, il y a tout de même le thé chinois. Bonjour Antoine Li.
Bonjour.
On a entendu parler tout à l'heure de Maître Tseng qui a donc ouvert cette boutique à Paris, une boutique de thé où l'on entre comme dans une bijouterie puisqu'il y a une sonnette. Et vous avez eu le privilège, Antoine, de rencontrer cette femme pour une dégustation de thé.
Alors c'est elle qui a fondé la maison des 3T il y a près de 18 ans, aujourd'hui associée à Fabien Maiolino qui est dans nos studios. Elle n'est présente à Paris que 6 mois de l'année. Le reste du temps, elle parcourt l'Asie à la recherche de nouveautés. Alors cette femme aux longs cheveux noirs est l'une des 5 spécialistes mondiales du thé. Maître Tseng a eu l'occasion de travailler avec les plus grands chefs comme Guy Savoie, Pierre Gagnaire ou encore Olivier Rollinger. Et pour cette dégustation, elle m'a invité à m'asseoir devant une bouilloire et là, c'était le début d'un voyage dans l'univers insoupçonné du thé.
Là, je mets le thé Inde thé bleu vert pour la dégustation. Comme c'est haut de gamme, ce sont des thés très complexes en termes de parfum.
Alors là, le bruit qu'on entend, c'est la bouilloire qui est en train de chauffer avec l'eau dedans.
Comme vous voyez là, il y a 2 tasses, donc une tasse haute qui sert pour analyser, sentir le parfum. La petite tasse pour boire le thé. Alors là, je pense que le thé est fait. voyez, le temps d'infusion est très très court. Là, ça a duré à peu près 30 secondes. Je vous ai vu au cours de préparation, je sens le couvercle pour voir si le parfum est bien développé. En fait, je n'ai pas le montre, mon horloge, c'est vraiment mon nez. Au moment précis, je stoppe l'infusion. Bon, là, je sers le thé dans la tasse à sentir.
Vous, pour reconnaître toutes les subtilités d'un thé, vous êtes obligée de vous astreindre à une hygiène de vie particulière.
Oui, quand même, il y a un minimum. Je ne suis pas fumeuse. Je ne porte pas le parfum, parce que le parfum, ça peut être gênant. Donc, on va sentir d'abord dans la tasse pleine pour capter le bouquet de thé. On peut déjà repérer les parfums de la mangue, les parfums de la pêche de vigne.
Je sens bien la pêche, oui.
Et vous avez aussi la note de kumquat.
On sent bien les fruits, hein, c'est incroyable. Hein.
Si je ne vous dis pas, on pourrait croire que c'est un thé aromatisé. Or que c'est vraiment un thé naturel, hein. Il n'y a rien qui est rajouté. Le voyage se fait en deux parties. Donc, première partie avec le nez, deuxième partie avec le palais. Alors, buvez-le, vous allez voir. On est tout de suite frappé par la concentration de fruits. L'attaque s'est faite d'abord sur les conquêtes. Vous laissez un peu réagir sur le palais. Là, il est en train de changer. Là commence à sortir des fleurs qu'on n'a pas senties au départ, c'est-à-dire des fleurs de Pénus.
Vous parlez de bouquet, vous parlez d'attaque en bouche. Ça appelle vraiment la dégustation de vin, quoi.
Exactement. C'est vraiment le même univers, en réalité. C'est vraiment le produit qui nécessite le nez et le palais pour les apprécier.
Est-ce qu'il est vrai qu'il existe des thés qui peuvent atteindre des prix vraiment très impressionnants au kilo? Parlez-nous de la vente aux enchères en 98.
Le thé a été vendu en équivalence en euros, 800 000 euros le kilo.
800 000 euros le kilo?
Tout à fait, oui. C'était un thé qui a été fabriqué par seulement trois petits pieds de l'arbre. Enfin, l'arbre, mais c'est un petit arbuste. Et donc, la production, tout rassemblé, c'est même pas 500 grammes.
Guillaume, je vous ai rapporté un échantillon de ce thé, seulement 2 grammes, mais qui m'ont quand même coûté 1600 euros. Je l'ai mis dans un sachet infusion qui vous attend dans le coffre de la direction.
Mais non, il y a une catastrophe, Élodie Piel a éternué, et en fait, ces 2 grammes se sont malheureusement déversés sur la moquette, on ne sait pas où ils sont.
Ah non,
désolé,
ça,
Antoine Liessi. On en est là, donc on va essayer de voir sur la moquette si on les retrouve. En attendant, François Delaroyère, donc on sait évidemment que le thé est d'origine chinoise, qu'il est né donc il y a 5 millénaires. Comment le thé s'est-il développé à la fois en Chine, mais surtout au Japon ensuite, en Inde? Comment expliquer la diffusion de cette culture-là?
D'abord, il y a eu plein d'étapes, mais disons qu'une des étapes très importantes de la diffusion du thé, à partir d'une zone régionale qui était le Yunnan et après le Sichuan, d'abord, il y a eu le passage par le fleuve Yangtze qui était vraiment qui arrosait économiquement et fluvialement la Chine. Par la suite, il y a eu un phénomène extrêmement important pour la diffusion du thé qui a été le bouddhisme, puisque il y a eu un mouvement très important. Il y a énormément de monastères qui se sont créés. Le thé accompagnait très bien la vie des moines, puisque d'abord, ça leur permettait de méditer et puis de passer des nuits, de très longues nuits à traduire le sanskrit, puisque tous les textes venaient d'Inde.
Oui. On peut le recommander aux étudiants aujourd'hui. C'est plus sain que les médicaments
absolument
qu'ils prennent pour éviter la nuit.
C'est plus sain aussi que nos moines qui, parfois,
buvaient du vin, mais ils en ont fait de bon aussi. Il faut leur pardonner. Ça leur sera pardonné.
Oui, donc c'est effectivement plus sain que le vin, malgré tout, bu en tout cas de fortes doses. Gilles Delannoy, ne me regardez pas d'un regard noir. Donc, le thé s'est ainsi diffusé grâce au bouddhisme.
Oui, dans un premier temps. Puis après, à partir de la dynastie Tang, il y a eu une dynastie de l'âge classique, l'âge d'or finalement classique de la Chine. Et là, le thé s'est développé pour la première fois dans le sens du goût. Parce qu'auparavant, le thé était plutôt quelque chose de médicinal. Même pour les moines, c'était quand même quelque chose qui servait à rentrer dans un certain état. À partir des Tang, le goût est devenu important, le plaisir du thé est devenu quelque chose aussi de prépondérant. Et il a commencé à avoir les experts dont parlait Gilles Delannoy il y a quelques minutes. Il y a eu des experts qui ont véritablement étudié le thé dans ses terroirs, dans l'eau qu'on y mettait, dans la manière de la bouillir, dans les instruments utilisés. Il y a eu des personnages comme Lu Yu qui ont été déterminants véritablement pour la théorisation du thé, même si le thé à cette époque était quelque chose de très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas une infusion, on le bouillait encore, et ça n'avait certainement pas du tout le goût qu'il y avait aujourd'hui, mais la civilisation du goût du thé a commencé à ce moment-là.
On écoute Babix Naomi M. Service public sur France Inter, un service public consacré au thé en compagnie de François Delaroyère, journaliste spécialiste des produits gastronomiques, Gilles Delannoy, professeur à Sciences Po, qui a co-traduit Dialogue du thé et du vin aux éditions Berg International, Fabien Maiolino, qui est directeur de la maison Détroit Thé à Paris. Fabien Maiolino, s'il vous plaît, expliquez-nous les différentes sortes de thé noir, thé vert, on a vraiment du mal à s'y retrouver.
Alors, en fait, c'est relativement simple. Pour comprendre le thé, il faut oublier tout ce qu'on peut lire sur le thé et prendre un axe extrêmement simple qui est le vin. Ce qui va faire un thé, ça va être son terroir, la variété utilisée qui est l'équivalent du cépage, la climatologie et le talent de la personne qui fabrique. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, dans le vin, on va dire qu'on a le vin rouge, le vin blanc, entre guillemets le vin rosé qui n'est pas vraiment une famille. Dans le thé, on a 6 familles. Thé vert, thé jaune, thé rouge, thé noir, thé bleu vert thé blanc. Voilà. Donc, ces familles sont...
Qu'est-ce que ça veut dire, thé blanc, thé vert, thé jaune ?
En fait, il y a une théorie qui va vous expliquer maintenant dans les livres qui parlent du thé et qui ont été créés pour la plupart dans le monde de l'industrie du thé, qu'on peut faire avec n'importe quelle variété de théier, n'importe quel thé. C'est-à-dire, si vous prenez une feuille de thé et que vous l'oxydez, vous allez avoir...
c'est-à-dire la laisser sécher à l'air.
Voilà. Alors, en fait, l'oxydation, en gros, si vous voulez, pour être bref et qu'on puisse quand même comprendre. En fait, une feuille de thé, on va briser la cellule de la feuille, on va laisser rentrer l'oxygène, ça va déclencher une enzyme d'oxydation. En fait, c'est un phénomène que l'on contrôle, mais c'est le phénomène de la feuille morte qui tombe de l'arbre et qui s'oxyde petit à petit. Voilà. Donc, dans le contrôle de ce phénomène, en fait, on va déclencher des arômes latents dans la feuille de thé. Voilà. Donc, selon la façon dont on va le faire, on va avoir des thés qui peuvent faire partie de la catégorie des thés verts si on ne laisse pas l'oxydation prendre. Et puis, quand on va à l'extrême des catégories, c'est-à-dire une pleine oxydation, une pleine fermentation, on aura le thé rouge ou le thé noir dans la nomenclature anglo-indienne. Voilà, ça c'est le principe de base. Après, en réalité, sur le terrain, les variétés de théiers utilisés pour faire un thé vert ne doivent pas être les mêmes que pour faire un thé bleu vert, un thé rouge, un thé blanc, etc. Et malheureusement, ça, c'est moyennement respecté puisque l'industrie mondiale travaille sur une douzaine de variétés, alors qu'en réalité, nous, on travaille encore sur plus de 400 variétés, mais certaines ne sont pas suffisamment productives à l'hectare.
Pourquoi ne trouve-t-on pas de théiers en France ?
On trouve des théiers. Allez au jardin botanique, jardin des plantes. Vous allez trouver des théiers. On a même fait une récolte. Ils produisent peu parce que le climat ne s'y prête pas. C'est comme des vignes, on peut en trouver dans toutes sortes de terrains. Mais il faut que le climat s'y prête. Dans les zones tropicales et subtropicales.
Donc voici les catégories principales de thé. Ensuite, on se rend compte, François de la Royère, qu'il y a des traditions nationales de thé avec donc le thé indien qui a ses spécificités, le thé japonais qui en a d'autres. Comment se sont-elles développées ?
Eh bien, le thé indien, anglo-indien, on dirait, hein, s'est développé principalement à partir de la demande de thé anglaise.
Donc, vous disiez tout à l'heure que c'était un thé qui avait ses spécificités, puisqu'on le buvait, par exemple, avec du sucre et avec du lait. Quelle est donc cette spécificité ? Comment on a construit, en quelque sorte, le goût anglais du thé ?
D'une part, il faut remonter un petit peu en arrière parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y avait pas de thé en Inde. Ça a été entièrement planté par les colons anglais. Et il y avait une petite production dans un endroit complètement perdu qui s'appelle toujours d'ailleurs l'Assam, mais ça n'avait absolument pas rayonné sur l'ensemble du pays. Or, il se trouve que les Anglais, qui en avaient un petit peu assez de payer beaucoup de thé aux Chinois, se sont dit qu'ils pouvaient en planter en Inde. Et ils en ont planté de deux manières. Ils sont partis de cette plante qu'ils ont trouvée dans cet endroit perdu et ils ont commencé à produire un thé qui était extrêmement tannique, qui allait bien avec le goût dont on parlait tout à l'heure, qui va très bien avec le lait, avec le sucre, qui a servi à faire des mélanges. Et ils ont énormément développé de manière presque d'une agriculture industrielle avec des rendements. Et par ailleurs, ils ont développé dans le nord du pays, à Darjeeling, des thés qui étaient produits avec des théiers chinois qu'ils avaient réussi à subtiliser à la Chine après mains efforts, puisque une grande aventure a été celle d'arriver à adapter des théiers chinois, d'abord de les subtiliser. Les ambassadeurs en ramenaient dans leur malle diplomatique. Et donc, ils ont planté ça. Donc, il y a eu deux axes du thé. Un thé plutôt plus élégant, on va dire, même si certains spécialistes trouvent qu'il n'atteint pas l'élégance de certains thés chinois à Darjeeling. Donc, plutôt pour l'aristocratie. Et puis, un thé fait pour les mélanges qui était planté dans la partie donc, est de l'Inde, dans l'Assam. Et puis, par la suite, ils ont développé, notamment Sir Lipton, le thé à Ceylan, Sri Lanka, aujourd'hui. Et puis, lorsque ces pays sont devenus indépendants, on s'est tourné. Les grandes compagnies se commençaient à s'installer au Kenya, par exemple, qui est un des gros producteurs de ces thés, justement, de ces brisures de thé dont parlait la personne que vous avez interviewée, Colette Ross. Voilà.
Gilles Delannoy, il y a, au-delà donc des produits, il y a une mise en scène du thé, la cérémonie du thé à laquelle donc Antoine Lee a assisté, par exemple. Mais en tout cas, le fait que ces cérémonies sont quand même plus sophistiquées, avouez-les, que la consommation du vin qui, elle, en France, demeure sommaire.
Ça dépend. La cérémonie du thé en tant que rituel social est uniquement japonaise. Elle est liée à la présence d'une plante, de la saison, d'un poème, d'un invité d'honneur. Là, nous sommes dans le rituel social quasiment pur. Et le thé n'est qu'un mot qui permet de désigner quelque chose qui était avant tout lié à l'ancienne société japonaise. Ce que vous appelez cérémonie, que j'appellerais plutôt dégustation. Il y a d'ailleurs le mot chinois qui est gong fu cha, qui veut dire la maîtrise du geste du thé. Il s'agit simplement de se donner les meilleures conditions possibles matérielles pour déguster le mieux possible le thé, exactement comme vous allez boire un bon vin dans un beau verre propre et assez grand pour faire sortir tout l'arôme.
Alors qu'est-ce qu'il faut justement pour que les meilleures conditions matérielles soient réunies pour déguster au mieux le thé ?
C'est un sujet sur lequel il y a une abondante littérature, parce que tous les poètes, les grands écrivains chinois ont donné leur avis sur la question. Le dernier en date, peut-être le plus célèbre, c'est Lin Yutang, qui vivait à Taïwan et qui a traduit les classiques, mais qui parlait aussi anglais, qui nous disait qu'il avait fait un peu compiler tout ce qu'on avait dit. Donc il fallait, si possible, être avec des amis dans une ambiance de calme et de sobriété. Donc le thé étant quelque chose qu'on associe plutôt au calme, alors qu'on associerait le vin, y compris l'alcool en Chine, à l'exubérance, au bruit. Et l'autre caractéristique très importante, qui cette fois-ci ne rapproche pas le thé du vin, mais le différencie, c'est que le thé peut aussi s'apprécier seul. Vous faites votre thé le matin ou dans l'après-midi, en travaillant, en lisant, en vous reposant, seul. Le fait de déguster le vin seul n'est quand même pas dans les habitudes, mais c'est quand même une démarche plus longue et plus importante que quand vous ouvrez la bouteille de vin, le jeu est pratiquement terminé.
Polika Tiffin sur Service Public France Inter, où il est question du thé en compagnie de François Delaroyère, journaliste, spécialiste des produits gastronomiques, Gilles Delannoy, professeur à Sciences Po, co-traducteur des dialogues du thé et du vin, et Fabien Maiolino, directeur de la Maison des Trois Thés à Paris. Fabien Maiolino, pour faire un bon thé, il faut donc un bon thé et une bonne théière. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne théière ?
Alors, une bonne théière, c'est tout simplement une théière en porcelaine. Il y a des matériaux qu'il faut éviter, c'est-à-dire que si, vous, par exemple, évitons les théières dites japonaises en fonte, qui sont de très beaux objets, mais qui n'ont jamais été des théières au Japon. Ça a été vraiment l'invention des marchands de thé de ces 15 dernières années. Ils vendent ça relativement cher et ça vous fait le thé le plus mauvais du monde.
Pour quelle raison ?
Ben, parce que ce n'est pas des matériaux faits pour ça. Les Japonais n'ont jamais infusé un thé dans de la fonte. C'était pour faire chauffer l'eau. C'était une bouilloire, simplement, et on faisait le thé en porcelaine.
Et puis, on l'a entendu, François Delaroyère, il y a aujourd'hui, dans le développement de la culture du thé, un savoir qui grandit, une sophistication de plus en plus forte.
Tout à fait. Un des exemples, une des applications qui me paraît importante, c'est qu'on peut boire du thé, du bon thé, évidemment, tout au long d'un repas, avec un repas, avec toutes sortes de plats, et dans la grande cuisine aussi. C'est-à-dire que les différentes sortes de thé peuvent rencontrer vraiment d'une manière extrêmement subtile à la manière du vin, avec en plus l'avantage de ne pas être alcoolisé, ce qui peut intéresser certains, et notamment ceux qui conduisent. Et vraiment, c'est une subtilité infinie, à condition évidemment de trouver les thés qui correspondent. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que le thé aussi peut rentrer dans la composition des plats, des préparations, c'est-à-dire être un ingrédient comme une épice.
Par exemple.
Les exemples sont nombreux. On peut mettre du thé moulu, par exemple, sur un avocat, du thé vert. On peut faire toutes sortes de choses qui ont été faites d'ailleurs par différents maîtres, par différents chefs aussi.
Alors, en guise de conclusion, pour ceux qui ne connaissent pas le bon thé, puisqu'on connaît tous le thé en sachet, par quoi faut-il commencer et quel budget prévoir pour s'initier au thé ?
Écoutez, dans la famille des thés les plus classiques, ceux que les gens appellent facilement thé de petit déjeuner, vous comptez, pour boire un litre de très bon thé par jour, vous comptez un budget entre 15 à 20 euros par mois. Donc moins cher qu'un budget café pour un amateur. Et vous allez avoir des produits extraordinaires. Et puis après, le reste, il faut se faire confiance, il faut laisser parler sa gourmandise.
Antoine Lee.
Et juste une question, est-ce que c'est une hérésie de mettre du lait ou du sucre dans du bon thé ?
C'est dans du bon thé, vous n'y arriverez pas. Vous essaierez de le faire, vous goûterez et vous trouverez votre thé meilleur sans lait et sans sucre. Quand vous mettez du sucre et du lait dans un thé, c'est qu'il le mérite.
Est-ce qu'il y a une différence également dans le contenu en théine des thés ? On a souvent peur d'en boire trop tard dans la journée.
Oui, bien sûr, bien sûr. Chaque variété de thé, et même chaque thé d'ailleurs, et la façon dont le thé va être fabriqué, on va avoir un degré de théine différent. Parmi les plus théinés, on a évidemment les thés verts. Les gens pensent souvent que c'est un thé léger, mais c'est un des thés les plus excitants.
Juste en guise de conclusion, Gilles Delannoy, vous qui connaissez bien la Chine contemporaine, est-ce que le thé se porte bien là-bas ou est-ce qu'on y boit plutôt une boisson gazeuse américaine ?
L'invasion des produits modernes est exactement le même que partout ailleurs. Il y a même une mode du café dans les villes et dans les élites chinoises plutôt que du thé aujourd'hui en Chine. Mais la boisson de base et les grands thés se trouvent là toujours.
On a même un marché extrêmement spéculatif au niveau du thé, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du Yunnan. En l'espace de 5 ans, il y a 75 000 fabriques de thé qui se sont montées dans le Yunnan. On a des prix jamais atteints sur le marché du thé qui peuvent faire plusieurs millions de dollars un kilo de thé en Chine continentale.
Voilà, donc si vous avez des kilos de thé chez vous, gardez-les parce que les cours augmentent. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez traduit, Gilles Delannoy, Dialogue du thé et du vin de Wang Fu. On écoute Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, et tout de suite après, le grand retour de notre oiseau voyageur, Laure Vatrin.
problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Service public sur France Inter, dernière partie de l'émission.
La séquence du consommateur.
Et la conclusion de cette émission vous incombe, Laure Vatrin. Bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Alors, on va continuer évidemment à parler du thé. Prendre le thé est une tradition éminemment sociale dans certains pays européens.
Oui, à commencer évidemment par l'Angleterre où le tea time est sans doute l'un des rares rituels à transcender les classes sociales, même si aujourd'hui tout le pays ne s'arrête plus à 5 o'clock tapante pour se préparer une nice cup of tea. Le thé reste la boisson nationale, symbole de convivialité et de socialisation, un peu comme le café pour nous. En fonction des milieux sociaux, le style varie. Si vous vous baladez dans un palace londonien en fin d'après-midi, vous avez toutes les chances d'apercevoir quelques posh girls, l'équivalent de nos BCBG, en train de savourer un afternoon tea, un goûter pantagruélique composé de mini sandwichs sans croûte, de scones nappés de clotted cream, une crème fraîche très épaisse qui, rien qu'en la regardant, vous fait prendre un kilo, et de gâteaux comme le Victoria Sponge, tout ça servi sur un présentoir à 3 étages.
Mais ce genre de rituel aristocratique n'est-il pas carrément décevant, Laure ?
Écoutez, c'est vrai que ce goûter à l'anglaise, héritage de la bonne société du 19e siècle, conserve une image plutôt oisive et féminine, mais il s'est quand même un peu modernisé ces dernières années. Ça reste un rendez-vous du dimanche soir dans les familles. Et puis les grands hôtels ont eu l'idée de le revisiter pour en faire un rendez-vous gourmand branché et aussi un rendez-vous d'affaires pour les traders de la city. Les chefs des palaces rivalisent de raffinement pour créer des assortiments, on a presque envie de dire des lignes de pâtisserie en forme de sac à main, d'escarpins ou de monuments londoniens. Et du coup, de plus en plus de contrats se négocient autour d'un thé.
C'est le tea time d'affaires.
Oui, d'ailleurs, en France aussi, c'est en train de devenir une alternative au petit déjeuner d'affaires ou au verre de fin de journée. Alors, pour la petite histoire, c'est la duchesse de Bedford qui a lancé la mode de la collation autour d'une tasse de thé au 19e siècle. Mais elle a en fait imité une habitude des salons français de l'époque qui a ensuite disparu de France avant d'être réintroduite à la fin du 19e pour faire comme les Anglais. Et le rituel de l'afternoon tea s'est répandu dans toutes les couches de la population anglaise à partir de la fin du 19e.
Est-ce que le cérémonial du thé, dans ce cas-là, existe toujours dans les milieux plus populaires ?
Alors, le cérémonial, non, ce qu'on appelait le high tea, et qu'on emploie d'ailleurs à tort aujourd'hui pour évoquer l'afternoon tea de la bonne société, était le repas du soir pris entre 17 et 18 heures par les ouvriers en rentrant du boulot. Un repas à base de poisson, de viande et de gâteaux, un menu beaucoup plus roboratif dont il ne reste aujourd'hui guère que la tasse de thé, ou plutôt le mug de thé. Cela dit, la consommation de thé a beau diminuer depuis plusieurs années en Grande-Bretagne, les Anglais restent les plus grands consommateurs au monde de thé, plus de 3 tasses en moyenne chaque jour. Mais ce ne sont pas eux qui importent le plus de thé.
Ah bon, et c'est qui alors qui en importe le plus ?
Eh bien, ce sont les Russes, à l'autre bout du continent européen. Les Russes pour qui la tasse de thé est à peu près aussi importante que l'assiette de soupe ou le verre de vodka pour souhaiter la bienvenue. Pour boire le thé à la russe, il y a un cérémonial. Il faut disposer les sachets dans une coupelle, les demi-rondelles de citron dans une autre, un peu de confiture très liquide ou du miel et bien sûr une boîte de sablé. Dans les entreprises, il n'y a pas de machine à café, mais toujours des biscuits et des confiseries à grignoter à côté de la bouilloire électrique. Et les mugs Ikea ont remplacé les jolis sous-verres aux anses métalliques et le traditionnel samovar qu'on ne vend guère plus qu'aux touristes. Mais le thé reste un rituel dans tous les milieux, jusque dans les prisons où le thé se boit très concentré, 3 sachets dans une seule tasse, presque comme une drogue, ce qui explique peut-être ce proverbe russe, le thé n'est pas de la vodka, on ne peut pas en boire beaucoup.
Merci beaucoup Laure Vatrin, à la semaine prochaine pour une déclinaison, j'espère, moins alcoolisée. Le thé vous a été servi par Agathe Gilbert, Élodie Piel, Irène Menahem, Louise Bonnard et Joseph Carabalona à la réalisation. La musique était signée Montu. À la technique, il y avait Pascal Petucci et Irène Dubois. Vous nous retrouvez évidemment en podcast. Bon week-end à tous.